C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteurs très nombreux, qu'ils soient peintres, écrivains, cinéastes, musiciens ou autres artistes. Œuvres, poèmes, tableaux, sculptures, chansons, films, vidéos. Personnages, la Lune. En 2013, j'ai consacré un secret professionnel à la Lune. On pourra en retrouver le lien sur le site de ce personnage en personne. J'ai appris à cette occasion que, si l'on retient les critères terrestres, la superficie de la Lune est de 37 871 220 km, que son périmètre équatorial est de 10 921 km, que sa température à la surface varie de moins 77 à 123 degrés Celsius. Et une fois qu'on a dit cela, on n'a pas plus dit que quand on a dit mensuration 91, 58, 94, taille 1m68, poids 57 kg, poitrine 85B, qui sont les caractéristiques physiques d'Ava Gardner, mais pourrait l'être d'une femme laide et sans charme. Comme les stars, et même si elle n'est pas une étoile, la Lune est lointaine, laiteuse et ne se montre que sous son meilleur profil. Nous pouvons être sûrs que la face cachée de la Lune fait bien de le rester. La Lune, qui suit la Terre comme un chien domestique, à moins qu'elle ne soit son perpétuel ballon d'enfant, a été considérée comme une déesse, comme une allégorie, mais jamais vraiment comme un personnage, même si Méliès lui a fait cligner de l'œil dans son film. Tout de même, c'est un pas vers la personnification. Un autre pas est que la Lune est familière. Cela se voit au fait qu'il existe des poèmes d'invectives à son endroit et d'autres où l'on se moque d'elle. Et voici par exemple la Ballade à la Lune d'Alfred de Musset. « Es-tu l'œil du ciel borgne, quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard ?» Ou encore la litanie des premiers quartiers de la Lune de Jules Laforgue. « Astre fossile que tout exile, sainte vigie de nos orgies, jetatura des baccaras, dame trélasse de nos terrasses. » Cette affectueuse raillerie n'est jamais arrivée au soleil. On lui doit trop peut-être, en tout cas on n'a jamais pensé à l'invectiver ou à se moquer de lui. Je crois que ce serait la suprême insolence. Si les êtres humains ne l'ont jamais fait, c'est peut-être parce qu'ils craignent que ce grand vaniteux, au premier vers comique énoncé contre lui, s'éteindrait. Qui est la Lune? Pour en parler, je reçois Alexia Fabre, co-commissaire de l'exposition La Lune, qui se tient au Grand Palais jusqu'au 22 juillet prochain. Alexia Fabre, même si on peut trouver des croyances en une lune bénéfique, comme chez les Yaka du Congo-Kinshasa, je l'ai appris grâce à votre catalogue, elle est plutôt, me semble-t-il, généralement considérée comme maléfique. Et je crois qu'il y avait une telle superstition de son influence néfaste qu'on évitait son nom latin de Luna dans les littératures de langue romane pendant très longtemps.
Bien que, comme vous le disiez, la lune est duale, elle a deux faces et dans le fond, elle est par essence ambivalente. Nous voyons toujours sa même face, par la nature des choses, sa face cachée nous est à tout jamais invisible. Et en fait, celle qui la représente peut-être la mieux, c'est la déesse Hécate, qui a trois visages. C'est une déesse grecque, et elle est représentée donc comme une sorte d'Hermès, avec trois visages. Et ces trois visages, ce sont les trois temps de la vie. Son aspect le plus positif, la fertilité avec la naissance, mais c'est aussi la vie, avec ses différents cycles, ses changements, et c'est enfin la mort. Et c'est vrai que très souvent, la Lune incarne ce qui préside au suicide, aux guerres, à la mort, aux superstitions, à la sorcellerie, à la magie. Et voilà, donc la Lune, elle est tout ça en même temps. Et dans le fond, serait-elle plus négative, inquiétante, maléfique que positive? Je ne le crois pas. En fonction de ces différents temps, en fonction des différentes lunaisons, en fonction de ce qu'elle soit en train de croître, de décroître, ou bien qu'elle soit pleine et que ce soit le temps de la métamorphose et de la transformation souvent de l'homme en loup. Dans le fond, elle est sur des temps assez équivalents et dans les différentes représentations, dans les différentes cultures, dans toutes les cosmogonies, elle est tout à la fois. C'est parce qu'elle est, dans le fond, la vie.
Elle n'est pas, ici ou là et selon les temps, uniquement néfaste ou faste?
Non, elle est dans la plupart des civilisations un peu des deux. Et comme elle est, par exemple, homme ou femme. Ça, c'est aussi un sujet absolument passionnant que nous avons découvert avec Philippe Malgouir tout au long de notre dérive et de notre errance autour de ce sujet, c'est que si la plupart du temps elle est ramenée à la condition féminine, qui serait de nature plus liquide, et on connaît l'influence de la Lune sur les marées, sur les cycles, sur la fertilité. Il y a d'abord
sur la fertilité, c'est une chose scientifiquement prouvée.
C'est une chose qui n'est absolument pas prouvée, absolument pas, mais qui de tout temps existe dans toutes les civilisations. Les Inuits pensaient par exemple que la Lune fertilisait les femmes. Et les femmes, pour éviter de tomber enceinte, passaient de la salive sur leur ventre. Et d'ailleurs, un ventre de femme enceinte ressemble à un ventre rond. Voilà.
Oui, donc, mais ça c'est une question de croyance, parce que le soleil est rond aussi, on pourrait dire qu'une femme enceinte est ronde comme un soleil.
Et oui, mais il y a la question du changement, de la transformation, de l'impermanence, qui est toujours rapprochée de la Lune et jamais du soleil, qui est toujours là, toujours sous une même forme, alors que la Lune nous accompagne dans toute notre vie, mais dans une position dans le ciel et dans une représentation sous une forme différente.
D'ailleurs, le genre du mot est selon les langues, ou féminin ou masculin. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin, puisqu'en France, nous savons très bien que c'est du féminin, mais en allemand, elle est du masculin, c'est Der Mond, alors que le soleil est du féminin et c'est Die Sonne. Donc, en fait, tout ça, c'est intéressant aussi parce que ça parle plus des stéréotypes que de l'objet elle-même, lui-même de la recherche.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui nous a profondément intéressés dans l'exposition. C'était bien sûr de partir de son origine, qui est l'anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, qui est un événement aux multiples conséquences, enjeux scientifiques, politique, géo- et spatio-politique même, mais aussi profondément existentiel. Et donc, ce que nous avons poursuivi tout au long de l'exposition, c'est les différentes natures de relations que l'humanité, depuis son origine, entretient avec la Lune. Et donc, elle a longtemps été compagnon, témoin, elle a longtemps présidé et expliqué nombre de phénomènes inexpliqués et qui inquiétaient l'humanité, pour petit à petit, finalement, devenir une sorte de sujet en soi, et peut-être même une forme de personne. Voilà, je fais référence aux différentes études, à l'approche que l'homme a eue envers la Lune, depuis l'Antiquité, bien entendu, mais évidemment, principalement depuis l'invention de la lunette à la fin du XVIe siècle, quand l'homme qui avait inventé cet outil pour étudier la Terre l'a levé pour étudier la Lune, et je pense bien sûr à Galilée et à bien d'autres, et aux premières cartographies de la Lune, au XVIIe siècle principalement, l'invention de ce qu'on a appelé la sélénographie, qui est une sorte d'appropriation aussi de la Lune par sa connaissance, puisque les savants n'ont eu de cesse de nommer la Lune à l'image de la Terre, ou à l'image de l'humanité, à l'image de leurs désirs ou de leurs ambitions. Et donc, toute cette approche a fini par autonomiser la Lune, à la faire représenter en tant que telle et non plus en tant que compagnon. Et d'une certaine façon, en la connaissant mieux, elle est advenue une sorte de sujet, une sorte de personne. Après, c'est la photographie, bien sûr, qui a pris le relais. Et c'est quelque chose qu'on perçoit, évidemment, dans l'art contemporain aujourd'hui.
On y viendra dans la deuxième partie. Ce qui est intéressant avec la Lune, c'est, vous l'évoquez sans l'évoquer, Alexia Fabre, c'est ce combat entre la croyance et la science. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des tentatives de connaissance scientifique de la Lune et qui étaient combattues par un désir profond de croyance. Et c'est très frappant quand on voit, par exemple, comment la conviction se greffe sur des choses où elle ne devrait pas se greffer. Et par exemple, quand on pense à Platon, qui n'était pas le dernier des imbéciles, et bien qu'il avait la forte conviction que la Lune était une boule de soleil. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est avec les convictions qu'on fait la contrainte. Donc, de quelle façon ce combat entre la science et la croyance nous a-t-il contraint, nous, dans ce que nous en pensons?
Il nous a constitués, certainement, parce que nous sommes des êtres de savoir, mais aussi des êtres de croyance. Donc, moi, je pense, par exemple, à Anaxagore, qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà déterminé que la Lune était faite de matière, contrairement à ce que Aristote a ensuite imaginé. Je pense aussi à Lucien de Samosate au 2e siècle après Jésus-Christ, qui a écrit la fameuse, la réelle histoire, qui a dit que certainement la Lune souffrait d'être tellement étudiée par les philosophes qui cherchaient désespérément à en connaître l'origine et la nature. Donc la Lune aurait peut-être souffert de cette attention incessante de l'humanité à son égard.
Dans quelle mesure cette idée d'aller sur la Lune et d'en rapporter de la matière pour des études était-elle réellement scientifique et avait un intérêt scientifique, ou était-ce de la rêverie et de la légende utilisée à des fins politiques par le président Kennedy et les soviétiques pour se faire une guerre de légende précisément?
Ah, je pense qu'avant tout, cette conquête a été le symbole, bien entendu, de cette lutte que se menaient les soviétiques et les américains. Dès 1961, Kennedy avait donc lancé son pays dans ce projet. Et vous savez que ça se jouait à quelques jours, parce que quelques jours avant la fameuse nuit du 20 au 21 juillet 1969, les Russes avaient tenté d'envoyer une sonde, qui finalement ça n'a pas abouti. Ils ont réussi d'autres choses plus tard, mais avant toute chose, on connaissait déjà beaucoup sur la Lune. Il y avait eu de nombreuses études, de nombreux satellites avaient été envoyés. Donc je pense que avant tout, c'est le symbole, oui, de la conquête, de cette conquête aussi qui fait partie de la constitution du récit national par les Américains, allant d'est en ouest, et que ça participe de la même mythification d'une histoire nationale. Et évidemment, cette conquête sur le plan scientifique a été très importante. Bien entendu, on a ramené plusieurs grammes de matière lunaire qui ont permis de déterminer que la Lune est certainement fille de la Terre. On a ramené surtout une moisson d'images. On en connaît toujours les mêmes qui sont devenues absolument iconiques, mais finalement il y a eu des milliers d'images ramenées par les différents astronautes. Mais au bout du compte, certainement que la puissance symbolique de cette conquête a été plus importante sur le plan politique et sur le plan existentiel, puisque l'homme, pour la première fois, a dépassé ses propres limites et a été placé dans une sorte de vertige qu'il a du mal à dépasser.
Je voudrais revenir très longtemps en arrière, Alexia Pham, pour arriver à un point qui me paraît essentiel en ce qui concerne la Lune, c'est son ambiguïté. La Lune même entraîne avec elle une idée d'ambiguïté. Si je prends la Polynésie, en Polynésie, la Lune est la divinité de la création, elle est même appelée première femme. Chez les Bédouins du nord de l'Arabie, elle, ou plutôt il, est le mari du soleil. Dans l'Égypte antique, elle était du genre masculin. Dans l'hindouisme aussi. Il y a une anecdote extrêmement curieuse qu'on n'a pas résolu depuis 37 siècles. C'est une certaine dynastie thébaine en Égypte, qui, on sait que les pharaons ont porté le titre du soleil, cette dynastie qui voulait conquérir le pays à son profit a décidé de se dénommer, de dénommer les membres de sa famille à partir du mot la qui voulait dire la lune. Donc en inversant les noms, on tentait d'inverser le pouvoir. Donc est-ce qu'il n'y a pas une rotation mentale de la lune qui n'est au contraire de sa rotation physique, qui n'existe pas, une ambiguïté perpétuelle, voulue?
Elle est ambiguë par nature. Parce qu'elle est là et en même temps elle s'absente, elle est lumineuse et en même temps elle ne produit pas sa propre lumière. La dynastie à laquelle vous faites référence, à l'aube du Nouvel Empire au XVIIe siècle à peu près avant Jésus-Christ, effectivement a voulu inverser effectivement la ligne des choses, comme d'autres ont essayé de le faire aussi à l'époque pharaonique, en se plaçant sous l'auspice d'autres dieux. Elle est ambivalente, mais comme vous le disiez, elle est aussi absolument inséparable du soleil. C'est un couple originel. Dans toutes les cosmogonies, c'est un couple qui se poursuit sans cesse, qui peut être un couple heureux, un couple incestueux, un couple harmonieux ou un couple violent, mais qui souvent a donné naissance soit à la Terre, soit à l'humanité. Et c'est ce que l'on voit aussi avec la question de l'éclipse. Par exemple, les véritables éclipses qui n'ont lieu que tous les 17 ou 18 ans, qui sont ce qu'on appelle les éclipses solaires, c'est le moment où en plein jour, la Lune vient cacher le soleil et amener sur la Terre la nuit en plein jour. Et dans de nombreuses civilisations, c'est le symbole d'une union violente, c'est le symbole aussi de la disparition du Christ, par exemple, pour les catholiques. Voilà, donc
la Lune.
La Lune, oui. La Lune représente souvent l'Église et représente aussi souvent la mort du Christ. Mais c'est l'humanité de l'Église, la Lune.
Ça n'est pas très théologique ce que vous me dites là, non ?
Il y a eu de nombreux débats et elle a été choisie pour représenter l'humanité du Christ et l'incarnation du Christ.
Mais choisie par qui et quand ?
En fait, c'est Sainte-Julienne de Cornillon qui a vécu au début du XIIIe siècle, qui a eu la révélation de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés lors de la messe. Donc il y a eu de nombreux débats pendant des siècles, jusqu'au XIXe siècle, où finalement une bulle, je crois, a été adoptée pour accepter et défendre l'idée de la présence du Christ dans la communion. Et donc c'est par l'apparition de la lune que Sainte-Julienne a eu cette révélation. Et donc dans toute une iconographie chrétienne, la lune accompagne le Christ au Jardin des Oliviers et symbolise d'une certaine façon sa mort, son humanité, comme celle de l'Église.
Ce qui montre au fond la continuité de la religion catholique et des cultes plus anciens.
Bien entendu. Et d'ailleurs, on retrouve dans la mort du Christ et ses trois jours de disparition, les trois jours de disparition d'Osiris, qui correspondent également aux trois jours de disparition de la Lune, qui revient après ces trois jours d'absence en nouvelle Lune.
Et de la même façon, dans votre catalogue, on voit des comparaisons intéressantes entre les représentations de la déesse de la Lune dans l'Antiquité et de la Vierge.
Oui, parce que ce soit chez Tanit, la déesse punique, que ce soit aussi d'ailleurs chez les Égyptiens, même si c'est plus lié à des dieux masculins, la Lune auréole en général leur visage, ou bien se pose comme des petites cornes, comme on retrouve par exemple la Lune en croissant qui vient accueillir la Vierge Immaculée Conception.
Nous allons maintenant entendre la chanson « Clouds Across the Moon » par Raband, la femme d'un astronaute en mission sur Mars, lui parle jusqu'à ce que la connexion soit interrompue par des nuages en travers de la Lune. Elle date de 1985 et sa diffusion est dédiée à la performeuse Nicole Peyrafitte.
Say baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry, is there someone there with you? Oh, since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end.
Alexia Fabre, dans cette deuxième partie de Personnage en personne consacrée à la Lune, je voudrais que nous nous attachions aux artistes et à la façon dont ils ont tenté à toutes les époques de faire de la Lune plus qu'une idée religieuse, un quasi-personnage. Et il me semble, je l'évoquais dans mon introduction, que ça s'est produit aussi par le comique qui est un grand moyen de libération du religieux. Et vous citiez vous-même tout à l'heure l'histoire vraie de Lucien, qui est Lucien de Samosate, dont d'ailleurs je recommande l'excellente édition complète que viennent de publier les Belles Lettres, et c'était au 1er siècle de notre ère. Et je voudrais vous citer un extrait de l'histoire vraie de Lucien. « Durant mon séjour dans la Lune, j'avais observé des choses nouvelles, extraordinaires. D'abord les Sélénites, c'est le nom qu'ils donnent aux habitants de la Lune, ne doivent pas leur naissance à des femmes, mais à des mâles, car les mariages n'ont lieu qu'entre mâles, et le nom même de femme leur est inconnu. On y est épousé jusqu'à 25 ans, à partir de cet âge on épouse à son tour, ils portent les enfants, non dans le ventre, mais dans le mollet. » Donc c'est comique, mais c'est aussi un comique et une libération, je pense, de l'idée religieuse, et qui participe, comme nous le disions dans la première partie, de cette ambiguïté consubstantielle à la Lune.
Oui, alors c'est amusant de faire référence ainsi à Lucien de Samosate, car finalement ce texte du début de notre ère pourrait plutôt faire penser à un texte satirique et critiquant les croyances et l'Église du XVIIIe siècle. Voilà, c'était donc un homme qui a d'abord dit que la seule chose réelle qu'il allait dire, c'est qu'il est un menteur. Donc évidemment, ça place son récit sous une certaine optique. C'est une satire, bien entendu, c'est un texte burlesque qui en a inspiré beaucoup d'autres après.
Notamment
Comme celui de Cyrano de Bergerac, bien plus tard, vers 1650.
C'est-à-dire l'histoire comique des États et empires de la Lune.
Voilà, tout à fait. ça a été donc un texte extrêmement satirique, très très burlesque, mais qui a été le texte fondateur de tous ces voyages imaginaires qui, dans le fond, sont en l'âge presque de l'humanité, mais les récits littéraires qui ont émaillé l'histoire des siècles jusqu'au texte plus vraisemblable et augurant d'une certaine façon de la science-fiction à partir de la fin du 19e siècle avec Jules Verne ou bien avec Poe qui avait une sorte de vraisemblance. Mais jusque-là, c'est satire, c'est l'imaginaire, c'est aussi la satire de textes préexistants puisqu'on dit souvent que le texte de Lucien de Samosate est une sorte de satire de l'Odyssée aussi. Voilà, et qui imagine tous les possibles, avec Endymion, roi de la Lune.
Votre exposition met en valeur un tableau très étrange, qui est le soleil d'Endymion de Girodet. Vous avez cité Endymion à cet instant. Et c'est aussi, je crois, un tableau qui exploite à nouveau l'ambiguïté de la Lune. Et je voudrais que vous me parliez. D'abord, décrivez-moi ce tableau. Dites-moi quelle dimension il a et ce qu'il représente.
Alors, c'est un très grand tableau qui date de la fin du XVIIIe siècle. C'est le moment de la Terreur. Et Girodet part en Italie, comme c'était d'usage. Et dans le cadre de ses études académiques, il doit peindre un nu, comme tous les peintres devaient le faire à cette époque-là. Et donc, il renverse complètement les choses parce que il ne peint pas un nu héroïque, un nu guerrier, comme la plupart des artistes le faisaient à l'époque, mais il peint un jeune homme nu. Endymion est un berger dont Sélénée, la déesse de la Lune, tombe amoureuse. Pour le garder à elle, intact, et à tout jamais, elle demande à Zeus de l'endormir dans un sommeil éternel. Et dans ce grand tableau, on ne voit pas la Lune. La Lune n'est pas présente. Par contre, elle vient éclairer le corps alangui, absolument abandonné de ce très bel homme. Le corps dessine une forme de croissant de lune. Il a ce geste merveilleux du bras replié qui est le geste du sommeil et de l'abandon. Et moi, j'aime beaucoup ce tableau. D'abord parce que c'est un chef-d'œuvre de clair-obscur, de peinture, de sfumato. Mais je l'aime beaucoup parce que il présente un sujet tout en le cachant. Il est d'une impudeur tout en restant effectivement assez pudique en même temps. Il est donc d'une grande ambivalence. Et surtout, avec ce tableau, Girodet renverse les conventions de la séduction. Et ça n'est plus un corps de femme qui s'abandonne. Et c'est un corps d'homme et d'un corps sous influence et d'un homme qui aime se faire aimer. On sent à son visage qu'il prend un plaisir extraordinaire à être regardé et ainsi admiré.
Alors, cette attitude plus satirique envers la Lune, dont nous parlions au début de la deuxième partie de l'émission avec Lucien, se retrouve dès les débuts du cinéma. Et c'est très intéressant que le cinéma soit devenu satirique. Et je pense évidemment, comme tout le monde, je crois, au film de Méliès. Ils sont trois, La Lune à un mètre, de 1898, Le Voyage dans la Lune, qui est peut-être le plus connu, de 1902, et Au clair de la Lune, ou Pierrot malheureux, de 1908.
Et oui, la Lune a terriblement inspiré les photographes d'abord, on l'a dit, qui, scientifiques qu'ils étaient, se laissaient aussi placer sous son influence et son emprise. On sent le plaisir des photographes à s'attacher à ce sujet. Et la Lune a également participé à l'invention du cinéma. Donc dans ce film de Méliès, il est bien sûr fait référence au livre de Jules Verne, mais peut-être plus à l'opéra féerie d'Offenbach de 1875, qui était plus de l'ordre de la féerie que proprement vraisemblable. Donc dans le fond, c'est aussi l'occasion pour Méliès de parler de la question de la conquête et du dépassement de soi. C'est un film finalement assez humaniste et assez tragique, parce que les hommes partent pour chercher de l'or sur la Lune et ils ne reviendront pas tous, car à court de carburant, ils sont obligés de laisser sur la Lune un homme et une femme. Donc la Lune a participé au début du cinéma. De façon satirique, on la retrouve aussi dans nombre de dessins animés. Je pense aux Shadok. J'aimerais bien pouvoir vous dire que les Shadok pensaient que la Lune était sur la Terre et que finalement c'était très facile d'y arriver. Il suffisait d'avoir une échelle à Lune et d'emporter son manger. Mais il y a d'autres films, je pense aussi bien sûr au dernier film muet de Fritz Lang qu'il a réalisé à partir d'un roman de son épouse en 1929. Là aussi, c'est l'histoire d'une conquête.
La femme sur la Lune.
La femme sur la lune. Et justement, dans ce film a participé Werner von Braun, qui a eu un destin absolument épouvantable. Il a participé en tant que conseil pour construire une fusée pour le décor de ce film. Décor qui ensuite a été détruit par les nazis. Par contre, von Braun, lui, a participé, bien entendu, au régime nazi. Il a fini par fabriquer les fameux V2. Et puis, à l'issue de la guerre, en 1945, il est parti aux États-Unis et a participé à la conquête spatiale, car il a été responsable de Saturne V, le lanceur donc de la mission Apollo. Voilà, donc la Lune préside à des destins funestes, étranges, ambivalents, faits de rebondissements et pas toujours très justes.
Et puis il y a un film dont je voudrais parler pour finir, qui est le si beau film de Fellini, La Voce della Luna, La Voix de la Lune, où la Lune parle à un homme lunaire, qui est interprété bien sûr par Roberto Benigni. Et à la fin du film, la Lune est capturée, enchaînée et devient la vedette d'une émission de télévision où viennent politiciens et hommes d'église qui vantent la nouvelle religion qui est celle du dieu consommation. Est-ce que le destin de la Lune est d'être marchandisée, Alexia Fabre?
Eh bien, c'est un véritable sujet. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, après le désir de la découverte, de la conquête, vient un autre désir, celui de la convoitise. Certaines œuvres dans l'exposition y font référence. On sait aujourd'hui que les Américains voudraient y retourner, que l'Europe voudrait peut-être y construire un village lunaire. Les Chinois y sont allés sans prévenir et s'y sont posés il y a quelques mois. Ils ont dit qu'ils y emmèneraient la première femme, puisque à ce jour, aucune femme n'a jamais foulé le sol lunaire. Il y aurait sur la Lune des gaz rares, comme l'hélium-3. Donc oui, elle devient autre chose aujourd'hui. Elle devient, bien sûr, un objet de convoitise. Elle devient aussi un lieu, une destination, ce qu'elle n'a pas été quand même pendant très très longtemps. Mais je pense que la Lune va résister. J'ai assez confiance en elle, car par sa nature, elle nous échappe. Par sa nature, elle reste ce qu'elle veut être, et même réellement, elle nous échappe, elle s'échappe, car chaque année, vous le savez, elle s'éloigne d'un peu plus de 3 cm de la Terre. C'est grâce à elle que la Terre gravite comme elle le fait. C'est elle, c'est la Lune qui stabilise l'axe de rotation de la Terre, et qui fait que cet axe de rotation a permis l'arrivée de certains climats, et donc l'apparition de l'homme. Elle est une des conditions à l'existence de l'homme. Et donc, maintenant, elle s'échappe, ce qui veut dire que bientôt, il n'y aura plus d'éclipses réelles, il n'y aura plus de nuit en plein jour, nous ne serons peut-être plus là pour le voir.
Mais il n'y aura pas de Starbucks Coffee sur la Lune.
J'espère bien qu'il n'y aura pas de Starbucks Coffee, mais qu'il y aura toujours tous nos espoirs et tous nos fantasmes, ça oui.
Alexia Fabre, que vous a appris la Lune en tant que personnage?
Eh bien, elle m'a certainement, ce voyage m'a appris beaucoup de choses, mais elle m'a appris certainement à... Je crois qu'elle est un révélateur et un vérificateur de présence. Je pensais à deux gestes en venant ici. Pour vérifier sa présence au monde, l'homme regarde ses mains, il baisse la tête, ou bien il la lève et il regarde vers la Lune. Et dans le fond, je crois qu'il n'y a pas d'homme, de femme ou d'enfant de toute l'histoire de l'humanité qui n'ait une relation particulière avec la Lune. Donc dans le fond, ce que j'ai compris en travaillant et en gravitant autour de notre satellite, c'est qu'elle est certainement un de nos sujets les plus communs. Et voilà, c'est un sujet qui intéresse tout le monde parce que tout le monde a une histoire particulière avec elle. Voilà.
C'était Personnage en personne, le 80e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Madame Rosa, créé par Romain Gary dans La vie devant soi.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet, de prise de son Alain Joubert.
Côté de ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté.